Café de presse.
Alors bonjour à tous, très heureux de vous recevoir ici. Alors il s'agit d'un programme organisé par Internews qui est en fait, le Café Presse sont en fait une rencontre organisée régulièrement par Internews, cette ONG américaine qui fait dans la promotion notamment de médias libre mais aussi de la société civile. Et en cette période de campagne électorale, un sujet a été proposé et ce sujet c'est justement comment on peut limiter les violences politiques en période électorale. Et pour discuter de cette question aujourd'hui, en face de nos amis journalistes, confrères journalistes, nous avons Maître Hervé Diakessé qui est avocat, mais également défenseur de plusieurs clients qui se trouvent être dans la société civile et principalement, et aussi dans le média, et particulièrement dans cette période électorale. On a d'ailleurs appris qu'un de vos clients, Peter Tiani, journaliste de son état, a été remis en liberté provisoire. Et au milieu, nous avons Patrick Mouyaya, ancien journaliste, il se réclame toujours de la profession, on te le concède, député en campagne, qui veut renouveler également son siège au Parlement à Kinshasa. Doublement d'ailleurs candidat, puisque candidat à la députation nationale et candidat à la députation provinciale pour Bandal. Et nous avons Alidou Ngapna, qui est le chef du BCNDH à Kinshasa. Son travail notamment, c'est de monitorer tout ce qui concerne les atteintes aux droits humains ici à Kinshasa pour le compte du BCNDH. C'est un programme interactif, on va essayer d'être précis. Dernière semaine de campagne, le but de cette activité, c'est de pouvoir relever les différents problèmes que nous avons au niveau de la campagne électorale, mais aussi et surtout de tout le processus, des questions en lien avec les violences politiques. Et pour témoigner et pour donner également son expérience, nous avons Patrick Mouyaya qui va déjà nous dire qu'est-ce que lui rencontre pendant sa campagne. Et ensuite, nous allons avoir qu'est-ce que fait les défenseurs des droits de l'homme en cette période. Et pour les cas du BCNDH, quand un cas comme ça vous arrive, comment vous arrivez justement à pouvoir à gérer. Alors, la première question, je l'adresse à Patrick Mouyaya, député et aujourd'hui candidat deux fois. Dites-nous aujourd'hui quels sont les types de problèmes, d'incidents que vous rencontrez dans votre campagne, vous en tant que candidat député, mais aussi en tant qu'observateur de la classe politique congolaise.
Merci patient et merci à tous les amis d'être là, je vous salue donc. Je crois que c'est la violence, malheureusement, de toute nature et inhérente dans un contexte de campagne comme la nôtre. Du fait de la multitude de candidats, nous avons 15 000 candidats pour les législatives nationales. Nous avons 19 000 pour les provinciales. C'est tout à fait normal que le nombre de candidats, j'ai pas calculé le nombre de candidats au kilomètre carré, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait confrontation puisque une période de campagne, c'est une période de concours. C'est une période où chacun veut venir avec ses idées, chacun veut venir avec ses moyens pour solliciter le suffrage des uns des autres. Et dans un contexte où tout le monde veut prendre de l'espace, tout le monde veut aller là où il y a tout le monde. Je vais être plus concret. Moi, j'habite Bandal. Et actuellement, l'avenue de ma résidence, l'avenue Assolongo, qu'on a baptisé boulevard Mouyaya, tous ceux qui sont candidats à Bandal ou à Funa, en tout cas les principaux candidats, c'est là que commence ou se termine l'ère carnaval motorisé, devant ma maison. Et ça commence parfois à 6 heures du matin, parfois à 3 heures du matin, parfois à 10 heures, à toute heure. Hier, j'ai fait faire un petit carnaval, j'y étais même pas. Ils ont rencontré un candidat sur la route. Le candidat a essayé de les embêter, mais c'est les premiers qui a appelé le bourgmestre de Bandal pour dire « Ah, Batamouya, Batumbolinga ». Je vous épargne de combien de fois les banderoles sont déchirées. Ce matin, on m'a fait comme quoi une de mes affiches en a décapité ma tête et tout le reste. C'est pour vous donner une indication. Mais de toute façon, moi, je considère que le jeu démocratique auquel nous avons souscrit nous impose une culture de tolérance, une culture d'acceptation. Fondamentalement, nous-mêmes, nous ne sommes peut-être pas suffisamment préparés à ces démocraties que nous voulons. On ne supporte pas la contradiction. Et les pires dans cette campagne, c'est que même ceux qui sont censés prêcher par l'exemple ne les font pas. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bandal Bakayaou. Je place mon cube, mon box, que j'ai voulu différent. Vous avez le vice-ministre de l'Intérieur qui vient y placer 3-4 affiches devant. Il est vice-ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité, et il vient le faire devant l'affiche d'un candidat qui est député national. Et donc, si moi, je devrais réagir ou faire réagir nos équipes qui sont, durant cette période chauffée, ça aurait été un incident.
Vous avez vu comment ça se passait en 2006 en tant que journaliste déjà. Comment vous analysez, comparez 2006, vous, journaliste, est-ce que la violence était comme on la voit aujourd'hui? 2011, vous êtes candidat vous-même, vous avez vécu également ce que vous avez vécu. Et 2018, est-ce qu'il y a une différence, 2006, 2011 et 2018?
Je crois que c'est trois campagnes différentes. La campagne de 2006, elle était la plus, j'allais dire, violente. Parce que vous avez vu ce qui s'en est suivi, des morts qu'il y a eu à Kinshasa. Parce que les principaux protagonistes en ce moment-là, c'était des anciens rebelles. Vous aviez à Kinshasa Bemba qui avait presque son armée, qu'il gardait. Vous aviez Rouberoi, subsidiairement. Mais vous aviez aussi les camps, la composante ex-gouvernement. Moi, à l'époque, j'étais donc journaliste. On devait faire à la centrale électorale, à Sainte-Anne à l'époque, on devait faire un débat électoral pour publier les résultats. Le débat n'a jamais eu lieu. Et l'abbé Malumalu est parti publier les résultats en char de combat. Et en 2018, c'est des types de violences qui sont... Ce n'est pas le monopole de la violence est détenu par un camp, si je peux m'exprimer ainsi. En 2006, il y avait un peu cette balance. En 2011 et en 2018, ceux qui gèrent la police, ceux qui commandent l'armée, c'est ceux qui sont du FCC, disons les choses de manière claire. Mais la violence que nous percevons, nous, dans les terrains, n'est peut-être pas due du fait des candidats présidents dans le contexte qui est le nôtre. Et c'était un peu aussi les camps en 2011. Et d'ailleurs, en 2018, je pense que la campagne, elle est même moins violente. Parce qu'en 2011, il y avait deux fois plus de candidats qu'actuellement. Peut-être qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous avons l'opportunité de voir tout instantanément. Mais en 2011, il n'y avait pas. Et aujourd'hui, en 2018, ça se consolide avec des phénomènes comme les Kuluna. Puisqu'en réalité, Kinshasa est contrôlé par des groupes des jeunes avec lesquels, si vous ne négociez pas, vous ne pouvez pas entrer dans un territoire donné. C'est aussi cela la campagne électorale, puisqu'elle est perçue comme une période de business, entre guillemets, où les gens viennent solliciter le suffrage, ils ont l'argent à dépenser, et les autres considèrent que c'est une opportunité pour capter l'argent. Et lorsqu'on n'arrive pas à capter ses profits, forcément la violence.
Deuxième question, ça concerne Maître Hervé Diakissé. Vous observez également la campagne électorale et disons tout le processus. Et vous, vous êtes également fait une expérience dans la défense, notamment des activistes droits de l'homme, mais aussi des militants de mouvements citoyens. La question est celle de savoir, aux côtés des acteurs qui sont impliqués comme les députés, les candidats députés, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on remarque du côté des militants, des mouvements citoyens et également des défenseurs droits de l'homme?
Merci beaucoup, patient. Premièrement, c'est que j'ai peur d'élever peut-être même les concepts de la violence en période électorale. On parle des campagnes électorales, mais il y aura surtout... Et je crois que les journalistes que vous êtes et les personnalités averties, ce que nous craignons, c'est davantage les violences post-électorales. Que c'est à l'annonce des résultats que les frustrations vont vraiment se manifester. Je ne vous rappelle rien que la plupart des dossiers qui sont pendants devant la CPI concernant l'Afrique ont pour soubassement les violences post-électorales. Je cite l'affaire du Kenya comme l'affaire Gbagbo et Blé Goudé. Pour en revenir à ce que nous constatons, il est vrai, et Patrick Mouyaya l'a rappelé, la période électorale, c'est une période de confrontation. Donc par nature, elle est conflictogène. Mais en cela, la violence est autre chose. La violence et les conflits, tout conflit ne peut pas forcément se traduire par de la violence. Donc, qu'est-ce qui se passe? Sigmund Freud vous dit la violence ou l'agressivité naît d'une frustration. Vous allez remarquer que, contrairement à ce qui s'est passé dans les années antérieures, ce sont les défenseurs de droits de l'homme et particulièrement les activistes de mouvements citoyens qui ont fait l'objet d'un ciblage d'une rare virulence de la part du régime. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des clients du mouvement citoyen Filimbi qui ont été condamnés à de lourdes peines à Makar, uniquement pour avoir sensibilisé à l'époque contre les velléités de la candidature éventuelle de Joseph Kabila en violation de la Constitution. Le mouvement citoyen auquel j'appartiens, les Congolais Debout, vient d'avoir ses militants libérés après plus de 4 mois de détention secrète par l'ANR, uniquement pour avoir sensibilisé contre la machine à voter et avoir exigé un scrutin qui soit libre, démocratique et transparent. Donc la question qu'il faut se poser, c'est dans quel contexte nous nous trouvons? Est-ce juste un contexte de compétition ouverte entre les candidats des différents partis politiques, où nous sommes dans un contexte beaucoup plus grave et où les enjeux sont différents? C'est un contexte où vous avez une famille politique qui n'entend pas céder une portion du pouvoir qu'il a acquis et qui gère ce pouvoir comme un butin de guerre et qui dit donc que les plus forts viennent me l'arracher. Et de l'autre côté, donc de ce fait, il utilise, ou cette famille utilise, tous les moyens de l'État à sa disposition. En l'occurrence, l'armée, la police, la CENI, ainsi que les institutions chargées de gérer les contentieux électoraux, et qui, en plus, a dans sa propre plateforme politique l'ensemble du gouvernement à des niveaux de responsabilité équivalents à leur responsabilité d'État. Là, vous avez une machine qui n'est pas déterminée à perdre. Et de l'autre côté, vous avez les politiques qui se retrouvent face à un outil électronique ou non électronique, peu importe, un outil d'élection qui ne leur garantit pas la transparence. Mais qui se disent que si nous n'y allons pas, ce sera un boycott, donc nous allons permettre que cette famille reste. Mais si nous y allons, les désastres sont annoncés, parce que nous savons qu'aujourd'hui, et personne dans cette salle ne pourrait me contredire, même si c'est présomptueux, vous n'imaginez pas un seul instant Corneille Nanga vous dire un candidat autre que Chadari comme vainqueur de la présidentielle. Donc dans ces cas, l'enjeu c'est lequel? L'enjeu c'est quels sont les rapports de force en présence en cas de crise post-électorale. Et pour contraindre ou diluer toute velléité de contestation de ces résultats qui permettraient donc que la famille politique en place ne perde pas tous ses avantages, il faut en amont décourager, interdire, réprimer et surtout anticiper toute velléité des révoltes. D'où une violence systématique et analysée en amont. Donc nous avons une répression d'État face à tout ce qui peut être perçu comme un risque de menace. Donc vous, on mélange du coup la compétition interne, intra-candidat qui est naturelle, avec une logique beaucoup plus grave et plus sérieuse de conservation de pouvoir par tous les moyens nécessaires et dont les élections ne sont qu'un avatar accepté uniquement parce qu'il y a eu trop de pression et qu'on ne pouvait plus maintenir l'actuel président en poste et qu'il fallait trouver quelque chose qui permette d'avancer. Donc, de ce côté-là, nous ne pouvons que nous dire, vous n'avez pas encore vu les pires est à venir. C'est au moment de la proclamation des résultats, de l'annonce d'abord par la CENI, mais surtout la proclamation au niveau de la Cour constitutionnelle, que nous allons assister réellement à la thématique de la réflexion d'aujourd'hui. C'est quoi les violences politiques en période électorale?
Merci Maître Hervé Diakissé. On va prendre la partie BCNIDH. Aujourd'hui, à Lidou, vous travaillez pour le BCNIDH. Ça fait 10 ans que vous êtes là et vous avez observé plus ou moins ce que nous remarquons depuis les débuts de ces processus. Qu'est-ce que vous, au niveau du BCNIDH, avez-vous, qu'est-ce que vous avez déjà enregistré en tant qu'atteinte, en tant que manquement au niveau des droits humains liés essentiellement au contexte électoral pendant cette campagne?
Pour parler des violations des droits de l'homme liées au processus électoral, on devrait nécessairement aller à janvier 2015. Parce que c'est à janvier 2015, lors de l'amendement de la loi électorale, avec les manifestations qu'il y a eu, qu'on peut voir comment progressivement l'espace démocratique a été réduit. Déjà qu'avec ces manifestations, il y avait eu des violations des droits de l'homme. Ensuite, à partir de 2016, on a vu l'émergence des mouvements citoyens. Je me souviens du lancement de Filimbi avec l'arrestation d'un certain nombre de personnes. Ensuite, la fermeture d'un certain nombre de médias d'opposition. Donc, on ne peut pas voir analyser la campagne électorale sans prendre en compte tout ce contexte-là de réduction de l'espace démocratique, de violation des libertés publiques et surtout d'empêchement d'un certain nombre d'hommes politiques de manifester. On l'a vu avec une interdiction à partir de septembre 2016 des manifestations dans la ville de Kinshasa, dans d'autres provinces à l'intérieur du pays. Je vais parler du Kasaï oriental ou bien dans le Katanga. Donc, ces restrictions de mouvement entraînent généralement de la violence. L'équation que nous voyons depuis, c'est que lorsque l'État, les forces de sécurité permettre qu'une manifestation se tienne sans répression, tout se passe à peu près bien. On l'a vu avec le retour de Étienne Tshisekedi à Kinshasa et du meeting qu'il y a eu à Triomphal plus tard. Il y avait des dizaines ou des centaines de milliers de personnes dans la rue, mais le jour où Tshisekedi revenait, on n'a pas eu un verre cassé. Donc, ça a prouvé qu'à Kinshasa, qu'en République démocratique du Congo, on peut avoir des manifestations publiques sans casse. Lorsque les parties prenantes, les partis politiques, et, mais surtout les forces de sécurité, jouent le jeu démocratique. Pour la campagne proprement dite, depuis un mois, nous voyons progressivement monter la tension. Nos collègues qui sont dans les bureaux de terrain de Lubumbashi, de Kalemi, de Kindu, nous ont apporté des informations inquiétantes. Et les rapports nous montrent qu'il y a eu des morts lors de l'arrivée des candidats à Lubumbashi et également à Kalemi. Donc, il est important de relever que l'inclusivité, la transparence ou la crédibilité d'un processus électoral est basée uniquement sur le respect des droits de l'homme. Si les droits de l'homme ne sont pas respectés pendant le processus électoral, nous n'aurons pas un processus électoral crédible. Donc, respect des droits de l'homme, cela inclut la liberté de circulation, la liberté de manifestation et la liberté d'expression. La liberté d'expression des candidats, mais aussi des personnes qui ne sont pas candidates. On a actuellement des mouvements citoyens. Nous avons eu pendant plusieurs semaines des membres de mouvements citoyens qui ont été arrêtés, déférés à la justice, plus traduits à Makala, pour avoir fait une sensibilisation dans un marché. Ce week-end et même aujourd'hui, il y a encore des membres de mouvements citoyens qui sont détenus au commissariat provincial pour avoir fait une manifestation de sensibilisation sur le processus électoral. Donc, si vous voyez les hommes politiques, oui, là, il y a des violations des droits de l'homme qui ont eu lieu. Et on peut se dire, oui, ils parlent, ils font des caravanes dans la ville. Si vous voyez, vous circulez dans la ville de Kinshasa, c'est pollué de banderoles partout. Vous allez peut-être vous dire qu'il y a une certaine liberté. Mais il faut voir également les mouvements citoyens. Quelle est leur marge d'exercice? Les journalistes, quelle est leur marge également? Sans parler des réseaux sociaux où il y a une déferlante de violence verbale, d'appel à la haine, d'appel à la violence. Je lis les réseaux sociaux, je regarde des vidéos. Avec ma connaissance sommaire du Lingala et du Swahili, ce que j'écoute, ce que je lis, ce que j'entends, ce sont des appels à la haine. Et vous êtes journaliste. Je pense que l'IFASIC devait faire un voyage à Arusha avec les élèves journalistes pour leur montrer leurs collègues qui sont détenus là-bas pour avoir incité les gens au génocide rwandais. C'est très important que les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux comprennent que ce n'est pas une zone de non-droit. C'est une zone où toute parole peut avoir des conséquences. Et la liberté d'expression appelle également la responsabilité du respect des droits des autres et des lois. Donc, en 2011, on n'avait pas cette pénétration de l'usage des réseaux sociaux. Donc, on ne pouvait pas jauger cela, mais cette fois-ci, cela prouve que la tension augmente. Dans quelques jours, il y aura les retours des candidats président de la République à Kinshasa. Il y aura les derniers meetings. Vu ce qui s'est passé à Lubumbashi, à Kindu, à Kalemi, à la fois du fait des forces de l'ordre, qui, on a parlé, il y a eu des exécutions sommaires, et ce qui va se passer à Kinshasa, nous sommes profondément inquiets. Vous avez vu le communiqué de la représentante spéciale et le communiqué du haut commissaire, de la haut commissaire aux droits de l'homme. Donc, il est encore temps que les militants des partis politiques se ressaisissent et surtout que les autorités prennent des mesures pour lutter contre l'impunité, mais également pour prévenir les violations des droits de l'homme.
Au niveau du monitoring, vous êtes à combien de morts déjà depuis le début de la campagne?
Je n'ai pas les chiffres là directement, donc je ne pourrais pas vous les donner là tout de suite probablement à la conférence de presse de mercredi, il y aura une communication là-dessus. Mais on a eu des incidents, même ce week-end, ce matin même dans la zone de Béni, il y a eu des affrontements entre des groupes antagonistes. Il y a des violations des droits de l'homme qui ont lieu pendant les meetings politiques. Il y a des hommes politiques qui sont attaqués par des groupes de personnes non identifiées. Bon, cela rentre dans le cadre de la violence, mais il faudrait plus d'enquêtes, plus d'informations pour savoir si ce sont des violations des droits de l'homme ou pas.
Merci beaucoup. On va directement se tourner du côté de l'assistante. On va prendre 5 premières questions et ensuite on va revenir ici. Vous présentez, vous dites votre organe et puis vous donnez votre contribution.
C'est Cyril Milando de la radio Top Congo FM. Je m'adresse d'abord à Maître Hervé Diakessé. Si on devrait rentrer en 2006, en 2018, vous êtes responsable de la CENI Congo Central. Actuellement, avec votre position, puissiez-vous contester l'utilisation de la machine à voter? Quelle serait votre position si vous étiez encore à la CENI? Et au député Patrick Mouyaya, vous plaignez de la violence sur le terrain. Mais nous constatons que cette violence, vous les hommes politiques, vous ne vous impliquez vraiment pas. Je prends tout simplement un cas. Vous êtes candidat, Maître Hervé Diakessé est aussi candidat, entre guillemets, vous vous connaissez. Mais sur le terrain, vos partisans s'affrontent. Il y a même des morts. Quelques temps après, vous vous retrouvez au pouvoir, vous vous retrouvez même dans un regroupement politique. Est-ce que la faute ne vous incombe pas aussi, vous les hommes politiques? Et Alidou, vous êtes du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Est-ce que la tâche vous est facile pour visiter des camps supposés, plutôt des cas de détention, oui, des personnes qui sont au secret? Est-ce que la tâche vous est facile? Est-ce qu'il y a encore des cachots qui ne dépendent pas du parquet dont vous n'avez pas connaissance?
Mouyamba, Biwan Télévision Radio, journaliste. Ma question est aux trois orateurs. Une seule question. On a l'impression qu'on va petit à petit vers l'inconnu. On ne sait pas ce que serait le 24 après le 23. On ne sait pas à quoi va ressembler Kinshasa et toute la République démocratique du Congo aujourd'hui. Et ce qui est de particulier, c'est qu'on n'a pas remarqué dans les deux derniers scrutins, celui de 2011 et 2006, la particularité, c'est l'appel au tribalisme. On le sent. Les réseaux sociaux, ça s'enflamme. Et cela inquiète profondément. Qu'est-ce qu'il faudrait proposer?
Bonjour, c'est Jacques Matante pour la BBC. Je voudrais poser une question aux trois intervenants. Quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en place pour limiter les violences électorales dans ce processus en cours, visiblement conflictogène, comme vous l'avez dit? Et comment peut-on arriver à contenir certains débordements et provocations des manifestants et sympathisants? Est-ce que là, ça s'adresse vraiment aux politiques, Mouyaya? Est-ce qu'il n'y a pas eu une faille dans la préparation des sympathisants, notamment à la pratique de cet exercice démocratique? Et une autre sous-question, c'est que, est-ce que dans ce processus électoral, les uns et les autres, les différents candidats qui sont en surnombre, se sont-ils préparés à accepter de perdre aussi, parce que tout le monde veut gagner?
Ah, bonjour, moi c'est Mario Ambongo de Kanakine Télévision. Ma question, c'est plus une petite question à mettre à monsieur Alidou, je crois que c'est des droits de l'homme, je crois. Généralement, en République démocratique du Congo, quand on parle de droits de l'homme, excusez-moi, c'est comme un peu l'histoire de Fable de La Fontaine. Ça fait quand même marrer. Est-ce qu'en amont, y avait-il pas moyen, avant les élections, de se rencontrer avec les politiques, toutes tendances confondues, c'est-à-dire l'opposition et la majorité, pour essayer de discuter un peu sur les dangers où nous exposons ce qui concerne les bavures sur les droits de l'homme? Y a-t-il pas moyen d'avoir des concertations avec les politiques?
Maître Hervé.
Par rapport d'abord à la préoccupation, le saut vers l'inconnu, oui, là c'est certain. Hein, personne parmi nous d'abord ne peut se dire que le 23 nous aurons réellement élection. Nous sommes tous potentiellement électeurs, mais je ne sais pas si tout le monde peut savoir dans quel centre de vote il ira voter. Est-ce que vous avez même... On est à... Aujourd'hui, c'est le les 17. Nous sommes à 6 jours d'élection. Est-ce que vous vous êtes imaginé que dans toutes les précédentes élections, aujourd'hui nous aurions dû avoir au moins la cartographie de nos centres de vote pour aller au moins vérifier dans quel bureau de vote nous sommes répartis, puisqu'à chaque centre de vote en fait correspond à un ensemble de bureaux de vote et il faut que nous ayons les listes. Donc on ne maîtrise pas les fichiers, même pas les fichiers corrompus de la CENI, nous ne le maîtrisons pas, pour au moins savoir, à moins qu'il y ait quelqu'un dans cette salle qui sache déjà où il ira voter. Sinon, nous présumons juste que nous serons plus ou moins à proximité du centre où nous avons été enrôlés. Donc, on est déjà dans une organisation délibérée et systématique de l'inconnu et du doute. Nous y sommes entrés parce que ça procède de la même logique qui voulait que Joseph Kabila ne postule pas ou puisse éventuellement violer la Constitution. À partir de septembre 2016 jusqu'à aujourd'hui, nous fonctionnons du doute en doute et jusqu'à la dernière minute, après qu'il y ait une forte pression, on crée une situation encore beaucoup plus ambiguë. Nous fonctionnons dans une succession d'inconnus à inconnus. Bon, moi, ça m'étonne que vous vous étonniez tout de suite là que nous entrons dans l'inconnu. Nous sommes déjà dans l'inconnu depuis 2016. À partir du moment où nous ne fonctionnons plus dans un cadre constitutionnel donné. La seule chose qui nous inquiète, c'est jusqu'où nous allons continuer dans cet inconnu, à quel moment la frustration sera tellement forte que les gens en auront certainement assez et préféreront descendre dans la rue. Cyril Milandou. Non, j'ai pas été à la CENI, moi j'ai été à la CEI. La nuance est détail. La nuance est détail. Et les I valaient vraiment la peine à cette époque, parce que la structure résultait d'un accord de paix, elle était plus ou moins neutralisée par la présence des délégués des composantes et entités, d'une part. Mais d'autre part, la question pour un responsable d'une commission d'organisation d'élections, c'est de rassurer les parties prenantes. Primo, la CEI avait cet avantage de faire fonctionner les cadres de concertation avec les partis politiques, avec les témoins, avec les observateurs. Les mécanismes d'accréditation n'étaient pas aussi compliqués. On suivait la loi électorale. Vous avez votre liste des témoins, on vous accrédite. Vous avez votre liste d'observateurs, on vous accrédite. Ce n'était pas un problème de guéguerre entre les observateurs et les témoins. Et rappelez-vous, à cette époque, les affichages se sont faits, du moins dans mon ressort au Congo central, je ne vais pas parler partout, les affichages se sont faits au niveau de chaque centre de vote et des bureaux de vote. Donc il faut dire qu'il y avait quand même des précédents. La CEI est venue ex nihilo. Elle a fait un travail qui n'est pas forcément formidable et inattaquable, mais elle a fait un travail qui venait du néant. Et elle a permis la possibilité d'un contrôle, y compris dans les bureaux de vote. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une logique d'hostilité entre la CENI et toutes les parties prenantes. Pour en finir, il y a des éléments d'anticipation, quand même. Le discours tribal est à bannir dans tous les cas de figure, quel que soit celui qui en bénéficie. C'est dangereux, c'est honteux et c'est indigne de ce pays. Nous sommes un grand pays. Aujourd'hui, personne ne peut dire que dans sa famille, dans sa tribu, il n'a pas des gens d'une belle famille ou des amis ou de voisins, indépendamment de leur appartenance. Personne n'a choisi sa tribu. Nous sommes nés, on nous a dit on est de tel coin, et puis c'est tout. Mais quand nous sommes fauchés, personne ne vient se présenter à moi pour me dire « Hervé, je suis ton frère, qu'est-ce que je peux te donner ?» C'est toujours « Je suis ton frère, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» C'est pour dire qu'à un moment donné, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que nous avons un pays et ce pays appartient à tous les Congolais. La plupart des gens qui sont en train d'instrumentaliser la tribu, l'ethnie, c'est parce que, justement, ils n'ont pas un autre discours. Et ils veulent rester, même pas pour leur tribu, mais pour eux-mêmes. Mais nous et vous, les médias, vous avez un rôle important parce que vous êtes les relais par lesquels ces discours passent. Même dans les réseaux sociaux, à un moment donné, il faut stigmatiser ces genres de propos, quelles que soient les personnes qui les tiennent. C'est une honte, c'est indigne et ça ne profitera à personne. Parce qu'il n'existe pas un seul moment quelqu'un qui part tirer son chèque en banque lorsqu'il est ministre ou député et qui appelle toute sa tribu pour qu'il partage cet argent-là. Donc dans ces cas, nous ne devons plus continuer ces choses.
Merci.
Et enfin, peut-être pour terminer, l'incitation à la haine tribale, surtout en période électorale, est un des éléments constitutifs en cas de violence qui en surgit, des crimes contre l'humanité. Et donc ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et vous devez commencer certainement à stigmatiser ces genres d'attitudes.
Honorable Mouyaya.
Merci. Cyril Milandou, je ne me plains pas. je constate. Il y a une différence parce que moi, je viens des médias. Nous sommes en période de campagne. Moi, je suis un des candidats les plus en vue dans ma circonscription. C'est tout à fait normal que d'autres candidats veuillent se gratter, se confronter à moi. Et me plaindre peut signifier aussi faire campagne pour eux. Et donc, je le prends positivement, sportivement, et j'en rigole. Parce que lorsque vous dites que la violence, nos partisans, est-ce qu'on ne peut pas les manager? Vous savez, très souvent, nos partisans sont à l'image de candidats. Mais vous me connaissez depuis plusieurs années. Je ne suis pas le genre « va en guerre ». Je ne suis pas celui qui développe un discours qui pousse les gens à la violence. Mais la vraie difficulté qu'il y a, c'est que c'est la violence qui règne en maître dans certains milieux de nos jeunes. Il faut l'admettre parce que en 2011, c'est là que le phénomène commençait, mais en 2006, nous ne connaissions pas le Kuluna dans cette ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, ces jeunes gens, c'est eux qui font la loi dans certains coins. À Ngiringiri, la semaine dernière, j'étais en train de faire porte-à-porte dans un marché. Et j'arrive, il y a eu des jeunes qui m'ont bloqué, on a essayé de discuter pour qu'ils me fassent passer. Mais après, il y a eu des coups de feu de la police. Parce que entre eux, ils ne se sont pas entendus. Entre eux, il y a eu... Parce que, fort malheureusement, les jeunes ne sont pas occupés. Les jeunes ne sont pas là où ils devaient être, soit en train d'être informés, soit en train de travailler. Et ils s'occupent comme ils peuvent, malheureusement. Alors, la question de Jacques Matande rejoint la tienne lorsqu'il dit est-ce qu'il y a moyen de prévenir la violence? Je voudrais, avant de répondre, vous planter les décors d'où nous sommes en réalité. Parce que la violence que nous vivons aujourd'hui n'est que conséquence de ce que nous avons accumulé les mois passés. Moi, j'étais à la signature de l'accord de l'OUA. Il y avait deux problèmes dans ce pays. Il y avait un problème politique lié à la fin du mandat. Il y avait un problème technique. Les dialogues successifs à l'OUA et à la SENCO, qui étaient censés résoudre le problème politique. Visiblement, le problème politique n'a pas été résolu selon l'esprit de ce qui avait été convenu. Et ceci, c'est fortement de pain sur le problème technique que manage la CENI, parce que Maître Diaké, c'est à ma droite, même si lui, dans son intégrité, était président de la CENI, il aurait été contesté dans le cadre dans lequel nous sommes, parce que la CENI, c'est une structure qui gère les passions des politiciens. Malheureusement, la CENI n'a pas été très efficace dans sa manière de communiquer, parce que un processus électoral, ce n'est pas le jour du vote qui compte. C'est chaque jour qui compte depuis le premier jour de l'enrôlement. Et moi, j'ai observé, je l'ai dénoncé par les passés, c'est que le processus d'enrôlement, par exemple, n'a jamais été suivi par les partis politiques, y compris par les principaux partis d'opposition. On n'a jamais rien observé et nous tous, nous nous sommes résolus à nous plaindre. J'ai visité la centrale de la CENI avant l'opération des dédoublonnages dans le Sankourou, où vous aviez enrôlé plus de 100 000 enfants de moins de 5 ans. Alors, je veux bien qu'on blâme le bureau de la CENI, mais regardez un peu les niveaux de conscience des compatriotes, parce que la CENI emploie les Congolais. Pour cette dernière phase électorale, la CENI utilisera 500 000 personnes. Ne me dites pas que toutes ces 500 000 personnes subitement deviennent toutes partisanes de la CENI ou proches du pouvoir. C'est nous-mêmes aussi le problème, le rapport que nous avons à la démocratie. Et donc, Jacques, fort malheureusement, rien n'a été fait de manière substantielle pour prévenir la violence. Au point qu'aujourd'hui, on ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Parce qu'aujourd'hui, personne, avec les discours qui sont accumulés de part et d'autre, personne ne peut prédire l'issue dans la paix de ces élections. Puisqu'il n'y a pas eu de consensus autour d'un processus qui est fait pour tout le monde. Parce que, fort malheureusement, la CENI actuelle, nous l'avions revue prioritairement quand on a commencé ce mandat. Nous avions voulu corriger les failles de la CENI Mulunda en créant comme une forme de comité de gestion et des conseils d'administration. Et les gens qui y sont toutes des parties parfois opposition, ils sont censés se contrôler. Mais bon, malheureusement, ou je sais pas, par esprit d'équipe, tous parlent de la même voix, mais cette CENI-là est conçue pour que les uns contrôlent les autres. Alors, Yann de Biwan a parlé du tribalisme. Dans cette même salle, il y a quelques mois, nous faisions un débat sur la cartographie électorale. Et moi, je disais, je l'ai rappelé à Patient il y a quelques jours, qu'il faut être fou pour penser que le tribalisme sera le seul facteur déterminant dans ces votes. Parce qu'en réalité, vous et moi, je ne sais pas si nous connaissons le village, nos jeunes frères encore moins, regardez la cartographie électorale. 80% de l'électorat congolais a moins de 45 ans. 35% de l'électorat congolais actuel n'a jamais voté. C'est des jeunes âgés entre 18 et 24 ans, donc à peu près de 6e primaire en L2. Ils n'ont jamais voté. 6e secondaire, merci. Ces jeunes gens-là ont vu Obama, ces jeunes gens-là connaissent Macron, ces jeunes gens-là connaissent Facebook, ces jeunes gens-là connaissent Twitter. Ce sont ces jeunes gens qui vont faire le vote. Et l'accueil de Fayulu dans les provinces de l'Est, personne n'aurait vu venir. Parce que justement, on pensait que les gens se retrouveraient dans la tribu. Mais c'est la démonstration que les jeunes Congolais ne s'identifient plus à ceux qui viennent utiliser l'argument tribal. Parce que le malheur de ce pays, c'est que le plus grand propagateur du tribalisme s'est recruté dans l'élite. C'est l'élite pour des besoins des positionnements à un moment donné qui veut s'y réfugier dans la tribu. Mais les jeunes qui ont massivement accueilli Fayulu vous ont donné une indication que les jeunes de l'Est s'en foutent, entre guillemets, de quelle est l'origine de celui qui va être président, mais ils tiennent compte de celui qui peut être le mieux à porter leurs aspirations pour aller vers des résultats meilleurs, parce que c'est ce que le peuple réclame. La dernière question de Jacques Matante, si les candidats se sont préparés à perdre. D'abord, il faut que le gens fasse très attention. Parce que nous avons, même si on a introduit les seuils, qui beaucoup de gens ne l'ont pas remarqué, a donné trop de pouvoir à la CENI. Parce qu'en réalité, sauf pour moi qui suis par exemple pour les cas des provinciales dans une circonscription à siège unique, si je me déploie bien avec mes témoins, je peux avoir une idée du résultat le jour du vote, mais aucun de nous ne pourra être sûr de son résultat. Parce que le seuil, seule la CENI pourra les calculer. Parce que nos partis politiques, je ne sais pas si nous avons de centrales électorales qui sont assez outillées et qui pourront très rapidement faire la compilation pour voir si on a atteint le seuil ou pas. C'est compliqué. Donc, il y a des gens qui pourront avoir 10, 15 000 voix, mais qui ne seront pas élus parce que leurs listes n'auront pas atteint le seuil électoral. Alors, si les candidats sont préparés à perdre, écoutez, il y a des candidats qui sont là pour remplir les listes. Il y a des candidats qui ne sont même pas en mesure de se mouvoir. Une campagne électorale se prépare. Une campagne électorale vous prend une vie. Mais fort malheureusement, comme il y a un effet de mode, comme nous, on n'a pas suffisamment honoré la casquette d'honorable que nous avons, tout le monde pense qu'il peut devenir député du jour au lendemain. Et beaucoup vont s'y casser la gueule.
Quels sont les mécanismes qui existent et qui permettent d'endiguer la violence? D'abord, la première chose, c'est le respect de la loi et la lutte contre l'impunité. C'est ça qui permettrait d'arrêter la violence. Je vous dis, il y a l'honorable Mouyaya ici à ma droite. En décembre 2015, nous avons sillonné la ville de Kinshasa pour prévenir la violence électorale avec son réseau des jeunes parlementaires. Le bureau conjoint organise également les institutions. Nous avons réuni les partis politiques pour parler de la violence électorale. Nous sommes en contact avec les groupes de jeunes. Nos collègues des affaires civiles sont les assistants de liaison communautaire, sont chaque semaine, tous les jours, dans les communautés pour parler avec les jeunes. Nous avons organisé les institutions, la Commission nationale des droits de l'homme, la CENI et le CESAC, pour justement parler du respect des droits de l'homme dans les médias, du respect de la prévention de la violence. Je ne compte pas le nombre de sessions de formation que nous avons organisé pour les journalistes, pour les forces de l'ordre, pour les agents des ministères intéressés dans le processus électoral. Bon, vous, à Kinshasa, vous allez me dire il y a des millions d'habitants, des milliers de journalistes, mais nous avons quand même apporté une contribution à cela. Toujours est-il que l'État doit prendre sa part, doit vraiment s'imposer en tant que régulateur, en tant que censeur. Sinon, toutes ces initiatives ne pourront pas évoluer. Maintenant, Cyril a parlé des lieux de détention. Nous avons le mandat de visiter les lieux de détention, d'avoir accès aux lieux de détention et de pouvoir parler avec les détenus. Nous avons une réunion hebdomadaire avec les services de renseignement pour faire le suivi des cas. Nous faisons de manière hebdomadaire également avec le parquet la visite des lieux de détention dans les commissariats de police, dans les sous-commissariats, etc. Donc, est-ce que nous avons accès à tous les cachots? Non. Les services de renseignement, pour le moment, ne nous donnent pas encore accès à leurs cachots, mais nous collectons des informations auprès de leurs points focaux sur la situation des personnes qui sont détenues là-bas. Donc, nous faisons le travail de monitoring, nous faisons le travail de suivi et nous sommes également butés à cette problématique-là. Donc, avec les hommes politiques, nous faisons des concertations sur comment respecter les droits de l'homme. Avec les hommes politiques de tous bords, hein, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, quand la maison d'un homme politique de la majorité est attaquée, nous traitons ça comme une potentielle violation des droits de l'homme et nous faisons le suivi, nous enregistrons le cas, de même que ce qui arrive aux hommes politiques. Nous faisons un suivi systématique, mais ce qui est important, c'est la prise de conscience au niveau des partis politiques, de la préparation de leurs militants pour lutter contre la violence et également au niveau de l'État, de prendre des mesures de prévention et surtout de réponse aux violences quand elles arrivent.
Et c'est Thierry Bishop-Fundo pour les comptes de Capsid Info ainsi que Congo Profond. On n'a pas répondu concrètement à la question comment limiter les violences politiques en période électorale. Parce qu'on a tous parlé des germes qui sont déjà là.
Fleury Dalla pour les comptes du mouvement international des étudiants catholiques qui est engagé dans un projet de processus électoral. Quand vous dites que le seuil a donné trop de pouvoir à la CENI, ma peur, c'est que la CENI risque d'être vue comme cet organe qui va manipuler les résultats au profit des uns à l'encontre des autres. Et donc, ça peut être une source de violence. Pour ceux qui, justement, ignorent la loi, ignorent le seuil légal des représentativités et qui peuvent se prévaloir d'avoir gagné parce qu'ils ont eu 30 000, 50 000 voix, alors que les partis ou les regroupements n'ont pas atteint le seuil au niveau national, si c'est législatif national ou au niveau provincial. Deuxième chose, je crois que aussi une des raisons, vous avez souligné beaucoup le cas de la jeunesse. Je ne veux pas parler à un député, mais voir au niveau des partis politiques. Cette jeunesse qui représente 63%. Entre 18 et 35 ans. Et quand on va jusqu'à 40 ans, c'est 70%. Jusqu'à 45 ans, c'est 73% de l'électorat. Qu'est-ce que les partis politiques ont fait pour préparer cette jeunesse à être ces électeurs, ces électrices responsables de 2018?
Moi, c'est Madame Fifi Solange Tangamou du quotidien Forum des As. C'était prévu que le gouvernement puisse faire une sensibilisation de la population par rapport à... Nous parlons du seuil. Hein. Bon, jusqu'à ce jour, on n'a pas eu à faire cette sensibilisation. Et je me demande justement, les hommes politiques, les opposants, tout le monde sont au courant de ça. Et la population surtout. Elle n'a pas été sensibilisée sur cette question. Et ce qui fera qu'à la fin, quand leur candidat ne sera pas élu, malgré le nombre... de voix qu'ils auront, ça pourra peut-être encore causer des violences. Ce sera maintenant à la base de ce qui sera comme violence, puisque la population n'a pas été sensibilisée sur ça.
C'est Will Kleisling, vous, je travaille pour CD. Alors, je lui posais une question au candidat Patrick Mouyaï, en fait, puisque là, je viens de voir une affiche de votre campagne électorale. Et vous êtes candidat à la députation nationale et à la députation provinciale. Du coup, je pose la question, comment postuler dans... Et si on peut postuler les deux postes à la fois? N'est-ce pas un instant de survie? Vous dites par exemple que si je vise la lune et que ça ne marche pas, je peux tomber sur les étoiles.
La question est
simple. Pourquoi vous avez postulé au niveau de la législative
nationale et aussi
et
provinciale?
Au cas où vous êtes élu en même temps député national et député provincial, qu'est-ce que vous allez faire en fait?
Merci. On termine. Donc, on va commencer par Patrick Mouyaï qui va être le premier à partir.
Merci, chers amis, pour vos questions. Je commence par la dernière. Comment postulez-vous quand vous êtes élu, que ferez-vous? Mais c'est clair que je choisirai l'un ou l'autre. Je peux pas siéger à deux assemblées différentes. Mais moi, je suis plus intéressé par l'assemblée provinciale, tout simplement parce que je viens de passer 5 ou 7 ans d'incompréhension à l'Assemblée nationale, parce que le peuple nous attend sur un terrain où nous ne sommes pas, parce que beaucoup d'entre nous prêchent la démagogie. C'est même pour pallier à cette carence que les réseaux de jeunes parlementaires, comme dernière activité, nous avons organisé des journées d'échange. Et Madame Suzy, que je vois ici, était là pour nous parler de la com, pour prévenir justement le candidat qui vienne sur les écueils ou les pièges qu'ils doivent éviter pour ne pas tomber dans les pièges de la démagogie. Nous, cette Assemblée, on a battu des records, on a adopté à peu près 200 lois, de lois importantes, code des assurances, on a éclaté la Cour suprême, on a fait beaucoup de choses, mais le peuple n'en a rien à foutre ou rien à cirer, passez-moi l'expression, parce que nous-mêmes, fort malheureusement, nous ne sommes pas entrés dans une espèce de pédagogie pour leur expliquer à quoi servaient les lois. Moi qui vous parle, j'ai été plus jeune député durant cette législature, j'ai co-dirigé les bureaux provisoires de l'Assemblée, et vous vous souviendrez qu'à mon époque, on avait apporté une révolution à la RTNC3, parce que cette chaîne ne doit pas être une chaîne nécrologique, elle doit être une chaîne où matin, midi et soir, on apprend aux amis congolais comment fonctionne, c'est quoi une navette parlementaire, comment c'est d'abord les lois et tout le reste. Peut-être que si nous avions réussi cette pédagogie, on n'aurait pas tous les candidats qu'on a aujourd'hui, parce qu'on donne l'impression qu'être député, c'est rouler en jeep et tout le reste. D'expérience personnelle, je suis plus pauvre que je ne l'étais avant depuis que j'ai été élu. Parce que quand j'étais journaliste ou conseiller, ce que je gagnais me revenait à moi-même. Mais ce que je gagne depuis que j'ai été élu, il y a des personnes qui pensent de droit, qu'ils en ont droit et je ne peux pas leur refuser. Et vous voyez que ça vous fait rire, ça vous fait rire, mais moi je n'en rigole pas parce que ce que je vous dis est d'autant plus sérieux que si nous n'y prenons pas garde, on va se perdre. Moi, pourquoi je cible les provinciales? Parce que ces pays, si nous voulons lui donner une chance, nous devons améliorer la gouvernance à la base. En tant que député national, moi je suis le président du caucus des élus de Kinshasa, mais on n'a aucun pouvoir sur Kimbuta. Les députés provinciaux, est-ce que vous les connaissez? Je parle à des journalistes. Combien vous pouvez me faire une liste des 10? Ils sont inexistants. Et donc nous, les députés nationaux, nous encaissons les peines qui devaient être les leurs parce que c'est pas les poubelles notre boulot à nous. Les Quinois se plaignent de quoi? Nous vivons dans une poubelle ouverte. Bon, heureusement que le cabinet du président de la République s'occupe de la poubelle à Kinshasa. La question de Radio Elikia, attaque personnelle, la faute de partis politiques ou des leaders. Aujourd'hui, nous les politiques, vous nous blâmez beaucoup, hein, entre guillemets, parce qu'on est les plus vus. Mais vous oubliez que nous sommes vos cousins, nous sommes vos frères, nous sommes vos amis. Et que l'état que nous amenons en politique, c'est l'état que nous vivons en société avec vous. Et que vous, si vous venez à notre place et que vous ne vous mettez pas dans une responsabilité des dépassements du fait de vos fonctions, ce pays n'a pas d'avenir. Parce que l'éducation, c'est pas à l'école qu'on apprend l'éducation. Madame Fifi et la question de mon ami du MIEC, ça serait coupe. Parce que vous ne pouvez pas participer aux élections sans connaître la loi. Moi, quand je regarde le flot de... J'ai vu un candidat, je me permets de les citer, Nazaire Kongolo. Il a des affiches magnifiques. Il écrit candidat indépendant à Lukunga. Comment il fait pour se faire élire? Même s'il a des belles affiches, il est bien positionné. Par rapport au système, là où les autres alignent 14 ou 15 candidats dans un scrutin à seuil, lui, il vient, il est indépendant. Pour être élu, il doit gagner les trois quarts de voix de la Lukunga. Est-ce que c'est possible? C'est un exemple que je donne. Alors, je termine sur le premier volet de la question de Fleury. Les partis politiques sont inexistants dans ce pays. C'est des groupes d'intérêts qui n'existent que pour penser conquérir le pouvoir et s'y cramponner. Les Occidentaux ont créé les partis politiques quand ils en ont eu marre de la royauté, quand ils en ont eu marre des empires. Parce qu'à cette époque-là, ils avaient déjà atteint un seuil de maturité économique. C'est la maturité économique qui permet aux uns aux autres de se déterminer de gauche ou de droite. Chez nous, nous n'avons pas atteint cette maturité économique. C'est pour ça que vous voyez des regroupements qui comptent à la fois des libéraux, qui comptent à la fois des socialistes dans un même courant. Ça veut dire que les clivages politiques ici, nous n'en avons pas. Et nos partis politiques aujourd'hui ne préparent pas les militants à aller dans une certaine pédagogie à la conquête du pouvoir. Les choses ont été facilitées ici, hein. Comme malheureusement on n'a pas fait les élections en décembre, qui critiquent les glissements, devient politique. Mais challengez les politiciens et les journalistes, parce que vous aussi vous posez des fausses questions. Posez la question aux politiciens, quel est leur plan pour la gestion de la démographie de ce pays? Quel est leur plan pour la gestion de la place des jeunes, la place de femmes? Malheureusement, on va parler de Fayoul ou de Chadari. On fera jamais attention au contenu de leur programme. Et puisqu'ils sont pas challengés dans ce qu'ils vont faire, ils vont s'occuper de leur positionnement et on fera nos débats sur les dates, sur les individus depuis 1960 et les Congos n'avancera pas. Tant que nous aurons les partis politiques que nous avons ici, on fera rien. Si je vous pose la question, les MLC, c'est les partis de qui, vous me direz Bemba. L'UNC, vous me direz Kamere. L'UDPS, vous me direz Tshisekedi. Mais si je vous pose la question, les partis conservateurs en Grande-Bretagne, c'est les partis de qui? Personne. Les Républicains en France, c'est les partis de qui? Personne. Donc ici, on a une conception, pas une conception personnelle. Les partis, c'est des propriétés, c'est des biens personnels dont les présidents disposent au gré de leurs intérêts. Fort malheureusement. J'espère qu'on s'en sorte. Alors, je termine par la question de Thierry Mfundou sur comment limiter les violences politiques. Il y a une seule chose qu'il faut faire. Il faut que nos hommes politiques transcendent leurs égos par patriotisme. Moi qui vous parle, j'étais dans un panel du département américain en 2015, janvier, parce qu'il y avait une élection au Nigeria où il y avait un président qu'on disait très corrompu, Goodluck Jonathan, et un autre qui s'appelait Mamadou Buhari, qui était réputé anti-corruption. Les deux hommes s'est détestés, nous les avons rencontrés séparément. Ils s'est détestés comme chat et souris. Mais au nom du Nigeria, ils ont décidé communément d'abord de reporter les élections de 6 semaines, mais que par la suite, ils se sont mis d'accord qu'ils respecteraient les résultats et que quoi qu'il advienne, ils contiendraient la violence. Et vous avez vu au Nigeria, la transition s'est faite de manière pacifique. C'est un pays, le pays le plus peuplé d'Afrique, qui est le pays économiquement qui a le plus grand marché, donc le plus riche. Mais ils ont des problèmes tribaux qui sont peut-être pires que les nôtres. Mais deux hommes se sont transcendés pour le bien du pays. Aujourd'hui, il faut un dépassement. Je suis désolé de vous dire que je ne vois pas nos politiques là. C'est dépassé, y compris pour le pays qu'ils veulent défendre, malheureusement. Et j'espère que Dieu nous aidera, comme on prie beaucoup au Congo, j'espère qu'on prie bien, pour que le pire, entre guillemets, ne nous arrive pas après les 23. De toute façon, on a plusieurs fois attendu les pires n'est jamais arrivé.
Maître Hervé, vous ramassez toutes les questions et puis...
Bon, il y en a que deux et la première est assez fondamentale, c'est toujours sur la question, qu'est-ce que nous faisons concrètement pour arrêter les violences en période électorale. Et nous savons tous qu'en règle générale, on l'a répété assez, les violences sont exacerbées, notamment par les velléités tribales. Mais vous, les médias, vous avez un rôle important. Alidou l'a dit, d'abord, le tribalisme ou la violence est d'abord une violation de la loi. Donc, il faut dénoncer et interpeller les personnes qui sont, de par leur fonction, tenues de réprimer ces choses. Nous sommes entrés dans un cycle des banalisations de la violence qui nous tétanise et qui devient très inquiétant. Personne n'a interpellé le procureur général de la République. Il est quand même tenu de par ses fonctions de réprimer ces choses. Et donc, le risque étant que nous puissions croire que l'incitation à la haine, l'incitation à la violence, même verbale, est quelque chose d'acceptable en période électorale. Nulle part dans la loi électorale, ça a été dit. Et vous, les médias, vous pouvez même lancer un mouvement de boycott des gens qui tiennent de tels propos. Parce que ça constitue des atteintes graves à notre droit de vivre en communauté paisiblement dans notre pays et surtout d'opérer librement les choix de nos dirigeants. Alors pour en finir avec... Donc moi je parle, il faut dénoncer et il faut le cas échéant interpeller. C'est ce que nous pouvons faire à notre niveau en tant que citoyens. Et monitorer un jour, si ce n'est pas la justice nationale, la justice internationale, sanctionnera ces genres d'actes parce que c'est des violations des engagements internationaux de la RDC. Alors notre ami qui dit qu'il me voit beaucoup plus acharné maintenant qu'avant, bon, ça dépend du point de vue. Il y a un temps pour tout et nous ne sommes pas les uniques acteurs dans ces combats pour la démocratie et l'état de droit en RDC. Par exemple, en cette période des campagnes électorales, notre mouvement citoyen qui a payé aussi un lourd tribut. Nous avons eu 7 de nos militants en détention secrète à l'ANR et je tiens à remercier normalement le BCN du EDH et d'autres partenaires auprès de qui nous nous sommes référés. Nous avons fait aussi notre part pendant un certain temps. Nous laissons aussi aux politiques à un moment donné d'évoluer. Il n'y a pas un acharnement particulier, il y a juste un désir, une détermination, c'est voilà, d'exercer un droit naturel qui est reconnu à tout Congolais, de désigner librement ses dirigeants et de les désigner lors des élections qui soient libres, démocratiques et transparentes, c'est tout. Pour cela, on s'acharnera toujours parce que nous n'avons que ces pays. Mais on fait chaque chose à son étape et en son temps.
Merci beaucoup, maître. On va terminer avec Alidou.
Il faut que l'État prenne sa place et exerce son autorité. Nous, nous faisons le monitoring, nous mettons à la disposition des autorités des informations qui leur permettent de déclencher, si elles veulent, les enquêtes d'un point de vue judiciaire. Cela existe. Les informations sont à leur disposition et c'est à elles d'agir. Donc, j'interpelle beaucoup plus les autorités pour la lutte contre l'impunité. Vous voyez, si quelqu'un est interpellé, sanctionné pour ce qu'il a fait en violation de la loi, ça envoie un message au reste de la population. Et ensuite, il faut que chacun prenne conscience. On a parlé du tribalisme, on a parlé du régionalisme, on a parlé de la violence. Les élections, normalement, c'est une fête. On s'en va pour exprimer son droit. On ne s'en va pas aux élections. On ne s'en va pas à la campagne électorale pour être blessé ou pour mourir. Donc, il faut que les jeunes prennent conscience du fait que l'exercice démocratique, c'est un privilège, c'est un droit, mais c'est également un privilège important. Parce qu'il y a des jeunes dans d'autres pays qui n'ont pas le droit de vote, hein, qui n'ont pas la possibilité de voter. Il y a des gens qui veulent voter, mais qui ne peuvent pas. Donc, vous qui avez la possibilité de voter, vous devez exercer ce droit-là en toute responsabilité. Et je pense que l'éducation, ça prend du temps. L'UNESCO est en train de travailler avec le ministère de l'EPSP pour changer les programmes scolaires et aider à une éducation aux droits de l'homme. Les institutions le font. Et pour finir, je voudrais dire et insister que l'autorité de l'État doit être effective pour pouvoir justement limiter ces velléités de violence.
Et pour terminer, on va dire également qu'on a tenu à organiser cette séance à l'intention des journalistes parce que justement, un, vous pouvez vous retrouver dans le camp des victimes, tout comme vous pouvez également vous retrouver dans le camp de bourreaux. De bourreaux par rapport aux relais que nous faisons. Parfois, certains sont des relais de partis politiques ou des activités politiques, mais d'autres également sont producteurs de contenu qui peuvent également être classés dans les cas d'incitation à la haine, à la violence et consorts. Donc en ce moment, quelqu'un le disait, c'est la troisième fois qu'on va voter, c'est quelque chose d'assez particulier pour la RDC. Et donc chacun dans son rôle devrait être utile pour notre pays, pour notre profession et pour notre démocratie. Merci beaucoup et à très bientôt.